Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
La rupture entre l'ancien président mauritanien Ould Abdelaziz et son successeur El Ghazouani est-elle consommée ? Nous en parlons ce soir avec nos invités dans le grand rendez-vous qui vous propose à présent la rubrique décryptage. On parlera droit des femmes en Côte d'Ivoire.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Madame Naseneba Touré, bonjour.
Bonjour.
Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, vous êtes à Paris pour participer au forum Génération Égalité, une rencontre de hautes personnalités féminines et de responsables politiques organisée sous l'égide de l'ONU, avec au cœur des préoccupations l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes à travers le monde. Quels engagements concrets attendez-vous de ce forum pour accélérer le processus d'égalité des sexes pour votre pays, la Côte d'Ivoire ?
Ce forum vient à point nommé pour nous. Nous attendons de ce forum-là plus de soutien, d'appui aux femmes en général dans le monde et particulièrement aux femmes de Côte d'Ivoire, où je peux vous dire que depuis les 10 dernières années, nous avons eu des avancées. Alors, mais moi, ma mission qui m'est assignée par le président de la République, c'est d'amener les femmes à plus s'investir dans la politique, dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire à tous les niveaux de prise de décision pour qu'elles puissent participer effectivement à la construction de notre nation.
Et quelle est la nature du soutien que vous espérez ?
Il y a un fundraising qui a été fait à hauteur de 40 milliards de dollars et qui sera redistribué aux pays où il y a besoin de plus scolariser les femmes, premièrement. Donc notre combat va vers l'éducation et la protection des femmes. Vous savez que dans nos sociétés africaines, le patriarcat a une très forte présence chez nous et il faut que désormais les femmes aient le courage d'affronter la vie, de participer à la construction de la nation. Et il faut beaucoup de sensibilisation au niveau culturel, au niveau de nos populations.
Vous parliez tout à l'heure de plus de représentativité de femmes en politique. La loi oblige les partis politiques à présenter 30% de femmes parmi leurs candidats, mais on a observé que les partis politiques avaient beaucoup de mal à le faire lors des dernières législatives.
Exactement, c'est vrai, mais moi j'irai plutôt sur un bilan pour les 10 dernières années, les deux quinquennats du président Ouattara. Je peux vous dire qu'il y a eu des avancées notables à ce niveau-là, de 5%, on se retrouve à 12% au niveau des femmes élues et au niveau de la représentation au niveau de la haute administration, c'est-à-dire membres du gouvernement, directrices de structures étatiques. Je suis satisfaite de l'avancée qu'il y a eu ces 10 dernières années. Mais la satisfaction sera quand nous pourrons réellement atteindre le quota des 30%.
Quels sont les obstacles les plus redoutables qui se dressent sur la voie de l'égalité entre hommes et femmes en Côte d'Ivoire ?
Alors, je vous disais que ces 10 dernières années, nous sommes en bonne voie. Et aujourd'hui, il y a des lois qui ont été prises par l'État ivoirien pour vraiment améliorer cette situation. C'est la loi de la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Et cela concerne aussi dans les nominations individuelles, 30% partout. Et le chiffre est en train de monter.
Mais au niveau du secteur privé, comment cela se traduit-il, par exemple, au niveau du traitement salarial ?
Alors, dans le secteur privé, on peut dire qu'il y a une nette amélioration. On voit beaucoup de femmes chefs d'entreprise aujourd'hui et surtout beaucoup de femmes entreprenantes. Et même dans les milieux les endroits les plus reculés, où c'est encore un peu difficile dans le secteur rural, les femmes sont aujourd'hui organisées en coopérative et elles arrivent vraiment, vraiment à évoluer, c'est-à-dire de l'agriculture simple, de celle du vivrier, elles arrivent à mettre des industries de transformation.
Au nom de l'égalité, le gouvernement sud-africain a publié un document qui envisage une réforme visant à envisager la polyandrie, la possibilité pour les femmes d'épouser plus d'un homme. Quel est votre avis sur ce débat ?
Je souhaiterais ne pas faire de commentaires là-dessus.
Envisageable en Côte d'Ivoire ?
Ben, vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, républicain, un pays qui a été fondé sur des valeurs sociétales très importantes à notre avis. Et je pense que quand la loi sera légiférée en Afrique du Sud, bon, nous allons prendre acte.
En Côte d'Ivoire aussi, on parle de près de 800 000 enfants qui travailleraient dans les plantations. Est-ce que vous confirmez déjà ces chiffres ?
800 000, c'est exagérément surestimé, puisque le contrôle qui se fait régulièrement, les enfants sont recueillis et il y a des responsables, des adultes qui font cette traite des enfants-là. Et aujourd'hui, nous avons un grand nombre arrêtés. Il n'y a pas de semaine que nous ne jugeons pas ces personnes et le travail des enfants est sévèrement puni par la loi en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes confrontés à une situation. Et en général, la majorité des enfants que nous recueillons dans les centres, dans la zone du Vébaoulé, plus précisément dans la région de Soubré.
Région fortement cacaoyère.
C'est la zone cacaoyère et on en a beaucoup d'enfants de la sous-région qui sont utilisés. Donc c'est en plus un trafic.
Madame Touré, merci.
Je vous en prie.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h16 à Paris, bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec votre émission de débat quotidien sur Africa Radio. Et nous parlons ce soir de la Mauritanie, l'arrestation la semaine dernière de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz est diversement accueilli dans le pays. Lui et ses partisans sont convaincus qu'il s'agit d'un règlement de compte politique, alors que du côté du pouvoir et ses alliés, on soutient que la justice est tout simplement en train de faire son travail de recherche de la vérité. Il faut rappeler que l'ancien président mauritanien qui a dirigé le pays de 2008 à 2019 a été inculpé en mars dernier avec une dizaine d'autres hautes personnalités pour détournement présumé de fonds publics. Mais avant cet épisode judiciaire, soulignons également que l'ancien président qui avait soutenu celui qui lui a succédé lors de la présidentielle de 2019, à savoir El Ghazouani, avait été écarté déjà de la direction de l'Union pour la République, l'UPR, parti au pouvoir, qui l'a pourtant fondée. Alors, qu'est-ce qui divise les deux hommes ? La rupture avec son successeur est-elle désormais scellée ? S'achemine-t-on vers un procès de Ould Abdelaziz ou faut-il s'attendre peut-être à un règlement politique de ce dossier judiciaire ? Nous en parlons ce soir avec trois invités. L'imam Ahmed, qui est secrétaire général du RFD, Rassemblement des Forces démocratiques, parti d'opposition. Il est en ligne de Nouakchott. Nous avons également du côté du pouvoir Fall Ghissali, qui est secrétaire général de l'Union pour la République UPR, principal donc parti de la majorité présidentielle. Monsieur Fall Ghissali, bonsoir. Monsieur Ghissali, merci d'être avec nous. Je ne sais pas, est-ce que monsieur l'imam Ahmed nous a bien entendu? Monsieur Ahmed, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, je vous entends très bien.
Merci, bienvenue. Et en ligne de Washington, Mokhtar Gawad. Bonsoir Mokhtar Gawad.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste mauritanien, ancien rédacteur en chef à TV5 et France 24. Vous vivez donc aux États-Unis et vous êtes promoteur, Mokhtar Gawad, du site vuesuramerique.com qui analyse l'actualité américaine pour un public francophone. Je vais donc ouvrir le débat peut-être avec vous, monsieur le représentant de l'UPR. Il s'agit de l'imam du RFD, pardon, l'imam Ahmed. Cela fait bientôt, monsieur Ahmed, un an que l'ex-président est donc empêtré dans ce dossier judiciaire et aujourd'hui il est en détention. Lorsque ce dossier a commencé en 2020, en août précisément, est-ce que vous vous attendiez à ce développement auquel on assiste en ce moment ?
Écoutez, encore une fois, bonjour à vos deux invités. Nous, FD, comme d'ailleurs parmi tous les partis de l'opposition.
Monsieur Ahmed, je regrette, on va devoir vous rappeler, la ligne n'est pas très claire avec Nouakchott. Monsieur Mokhtar, peut-être vous, en quelques mots, et on retrouve Monsieur Guissali.
Allô, c'est à moi.
Oui, est-ce que vous êtes surpris du développement et de la tournure que prend ce dossier judiciaire aujourd'hui?
Je ne suis pas surpris que l'ancien président Aziz soit poursuivi tant qu'il a fait du mal au denier public et à ce pays pendant plus de 10 ans. Je ne suis pas surpris non plus que son successeur veille s'en affranchir. Parce que ce sont deux compagnons de route de plus de 40 ans et aujourd'hui on voit une espèce de guéguerre qui, je le pense, n'irait pas jusqu'à un procès de l'ancien président et je pense qu'il y aura un terrain d'entente entre les deux hommes tant les clans qui les supportent sont les mêmes et ce sont des gens qui se sont enrichis sur le dos des Mauritaniens et rien ne change. Aziz est parti avec plusieurs millions. Le clan de son...
Pardonnez-moi, Mokhtar, précisons que ce sont... Il est soupçonné de corruption présumée. L'affaire n'est pas jugée. Donc là encore, j'insiste, il est présumé innocent. Donc pour l'instant, on ne peut pas parler détournement, comme vous l'affirmez. Mais je voudrais peut-être que vous précisiez aussi, vous parliez d'affranchissement de la part de son successeur. En un mot, est-ce qu'il s'agit d'un dossier judiciaire ou est-ce qu'il est question ici plutôt d'affranchissement, comme vous le dites, de El Ghazouani, de celui qui l'a soutenu en 2019 ?
Liliane, la Mauritanie est un petit pays par la population et on sait exactement qui fait quoi dans ce pays. Nous savons que Aziz avait été tout simplement un militaire et que si vous êtes un militaire pendant plus de 30 ans et que vous sortez avec plusieurs dizaines voire centaines de millions de dollars dans vos dans votre escarcelle et dans vos biens personnels, on se pose la question, surtout qu'il n'est pas issu d'une famille riche au départ. Donc ce sont des choses qui sont connues mais que tout le monde suit de près. En revanche, concernant l'affranchissement, je pense que personnellement Razouani voudrait effectivement s'en affranchir et s'affranchir du clan qu'il a porté au pouvoir et il bute sur les intérêts extrêmement importants que défendent ce groupe et cette clique qui s'est enrichie sur le dos des Mauritaniens.
Merci beaucoup, Mokhtar Gawad. Monsieur Fall Guissali, vraisemblablement, il s'agit donc d'une affaire politique plutôt que judiciaire. En tout cas, c'est ce que semble soutenir Monsieur Gawad.
Bonsoir Liliane, bonsoir les collègues. Je suis désolé, mais je ne pense pas que ce soit une affaire politique. Dans la mesure où, comme vous le savez, depuis l'événement de son Excellence le président Mohamed Bouchir Razouani, il y a eu de manière consacrée et de manière tout à fait claire la séparation des pouvoirs. N'oublions pas que cette affaire est née au niveau de l'Assemblée nationale, quand un groupe de parlementaires de l'opposition a estimé qu'il y avait un certain nombre de dossiers sur lesquels pesaient des présomptions de mauvaise gestion, une dizaine, et a demandé donc la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. La constitution de cette commission d'enquête parlementaire faisant partie des prérogatives de l'Assemblée, il était tout à fait normal que les députés de l'UPR n'aient pas d'objection par rapport à cette constitution. Et c'est quand elle s'est constituée et qu'elle a commencé à travailler, si je vous rappelle que c'était en 2020, qu'elle a commencé à travailler pendant 6 mois avec l'assistance d'expertise spécialisée, que de fil en aiguille, on s'est rendu compte, effectivement, avec le rapport, disons, de l'identité un peu des choses qui ont été découvertes. Et dans la mesure où cette commission d'enquête n'a pas le droit de juger, le dossier a été transmis à la justice.
Je
rappelle
d'accord.
juste que pendant toute cette période, il n'y a eu aucune interférence un peu dans l'action parlementaire. Et depuis que le dossier est transmis à la justice, il n'y a aucune interférence aussi dans l'action judiciaire.
Mais donc, M. Guissali, est-ce
un dossier de justice?
D'accord. Oui. Vous soutenez donc au niveau de l'UPR qu'il s'agit d'un dossier judiciaire, mais le fait que cela soit déclenché après une querelle au sein du parti au pouvoir, l'UPR, est-ce que duquel d'ailleurs le président Oul Abdelaziz a été écarté, est-ce que cela ne peut pas soutenir ou renforcer la thèse de ceux qui pensent qu'en fait c'est une bataille politique à l'intérieur d'une famille politique qui a débordé sur le terrain judiciaire?
Ça n'a rien à voir. Je vous confirme que ça n'a rien à voir. Et je vous confirme également que le président Aziz n'a pas été écarté de l'UPR. L'UPR est un parti qui renferme la majorité des Mauritaniens et qui a des structures. Donc, qui a un congrès, un bureau exécutif, un conseil national. Et donc, le congrès a tout à fait décidé de façon tout à fait solennelle de réaffirmer le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani comme sa référence. Donc, à partir de ce moment, l'ex-président donc, aurait pu être un membre du parti tout simplement.
Mais il était reproché à l'ancien président de vouloir rester à la tête de ce parti alors qu'il n'était plus chef de l'État, ce qui n'aurait pas plu au président Al-Ghazouani.
Non, l'ancien président n'a jamais été à la tête de ce parti. Il l'a été au départ, mais dans la mesure où notre constitution ne permet pas à un président en exercice de présider un parti, quand il a été élu, finalement, le Congrès a élu d'autres instances. Donc, le président Aziz n'était pas à la tête de ce parti. C'est un membre de ce parti, mais il n'était pas à la tête du parti. Et donc, il ne pouvait pas. Ce sont les instances du parti, notamment le Congrès, qui décident. Et le Congrès a décidé que sa référence, c'est le programme du président de Kazouani et le projet de société que nous voulons mettre en œuvre est celui qui émane un peu du programme Tahoudati.
Merci beaucoup. En tout cas, on va revenir dans la suite de cette émission sur cet aspect, puisque certains affirment que le président Ould Abdelaziz, n'étant plus chef de l'État, voulait rester quand même dans une instance supérieure du parti. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Débat ce soir sur l'avenir de l'ancien président mauritanien Ould Abdelaziz, qui est détenu depuis la semaine dernière. Est-ce qu'on s'achemine vers un procès ou faut-il s'attendre à une solution politique de ce dossier judiciaire? Trois invités pour en parler. Fall Guissali, secrétaire général de l'Union pour la République, l'UPR au pouvoir. Mokhtar Gawad, journaliste et analyste mauritanien. Et l'imam Ahmed, secrétaire général du RFD, Rassemblement des Forces démocratiques, parti d'opposition. Alors, monsieur Ahmed, monsieur Fall Guissali a déclaré tout à l'heure que le dossier contre le président Aziz est purement judiciaire. Le gouvernement, dit-il, comme le parti l'UPR, n'interfère pas dans ce dossier. Convaincu?
Rebonjour. Donc, au RFD, comme d'ailleurs un peu partout au sein de l'opposition, nous considérons que ce dossier est bienvenu parce que nous avons depuis toujours demandé la constitution de commissions d'enquête parlementaire, aussi bien aussitôt après l'élection du nouveau chef de l'État, M. Ghazouani, mais aussi durant tout le règne de Aziz, bien avant, même du temps de Taïa, il y a une bonne trentaine d'années. Vous vous souvenez certainement des événements malheureux que la Mauritanie avait connus à la fin des années 80, lorsqu'une partie des Mauritaniens avait été tout simplement contrainte à quitter
son pays
pour des... Voilà, à l'exil et tout ça.
Ils sont retrouvés pour certains au Sénégal.
Les RFD, avec bien d'autres partis politiques, avaient demandé une enquête. Nous sommes contre l'impunité. Nous sommes pour la transparence. Nous sommes pour une gestion saine des ressources de notre pays qui a besoin de ces richesses.
Donc vous, au niveau de l'opposition, vous considérez que ce dossier est un dossier judiciaire et qu'il ne s'agit pas de lutte d'influence au sein de l'UPR entre le président Ghazouani et son prédécesseur qu'on accusait à l'époque de vouloir jouer un rôle majeur au sein de ce parti après avoir laissé en quelque sorte le pouvoir à M. Ghazouani.
Écoutez, ce n'est pas au RFD de décider qui doit jouer quel rôle au sein de l'UPR. C'est un parti que nous respectons. Il a la pleine latitude de mettre à sa tête qui il veut. Mais nous considérons que M. Aziz a été président de la République pendant une bonne dizaine d'années, nous considérons qu'il a fait.
Il doit répondre de sa gestion.
Oui, sa gestion a toujours été décriée. Nous l'avons souvent, très souvent critiquée. Nous avons demandé aussitôt après. Madame, excusez-moi, nous avons demandé dès l'élection de M. Ghazouani à ce qu'une enquête et un audit soit fait sur toute la gestion des 10 dernières années. Maintenant, de là à dire que cette affaire n'a pas de relent politique, non, je considère que quand on juge, quand une commission parlementaire enquête sur la gestion d'un ancien président de la République, il y a toujours une dimension politique. Mais
à quel niveau
Nous considérons que quand on a été chef d'État pendant 10 ans et qu'on vous juge aujourd'hui ou qu'on enquête sur votre gestion et que votre dossier soit transmis à la justice, c'est déjà une très bonne chose. Nous saluons cela. Je ne fais pas de procès à M. Aziz pour le moment. C'est à la justice mauritanienne de décider si oui ou non il est coupable. Mais nous considérons qu'il y a beaucoup, beaucoup d'indices. Et nous considérons que ce pays a connu beaucoup de problèmes du fait de cette gestion-là de M. Aziz.
Merci.
Et que les comptes doivent être rendus.
Merci.
Maintenant, qu'il y ait une dimension politique, cela, à mon avis, n'altère en rien notre légitime demande
de justice et de vérité sur ce dossier.
Oui, de justice et de vérité.
Merci.
Qu'il y ait des aspects politiques, cela ne. Je veux dire, cela ne nous gêne à rien du tout. Mais que justice soit faite et qu'elle soit faite dans de bonnes conditions. Il faudrait que M. Aziz bénéficie de tous ses droits, qu'il ait la défense qu'il faut, que ça soit un procès bien monté, que les dossiers soient bien faits, et c'est tout.
Merci beaucoup, M. Ahmed. Mokhtar Gawad, il semble que il y a quand même des inquiétudes au niveau du respect des droits, M. Ahmed le disait. Est-ce que le fait de ne pas respecter les conditions de sa résidence surveillée, d'après vous, peuvent expliquer valablement qu'il soit placé en détention?
Vous savez, Aziz et surtout le président Aziz est connu pour son arrogance et savait qu'il était quelque part, qu'il avait un passe-droit sur bon nombre de dossiers et pourquoi pas refuser de se plier à la justice du pays. Donc, moi je ne suis pas un politique contrairement à M. Ahmed et à M. Ghissali que je respecte beaucoup. Tout a été dit et écrit sur cette histoire de détournement. Les faits sont établis et ils seront établis. Je conseillerais à tous mes compatriotes de prendre de la hauteur et d'analyser le fond des choses. Comme ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de pays africains, c'est une lutte pour le pouvoir qui est devant nous. Ce sont des modalités de conservation de pouvoir qu'il faut analyser. Ailleurs, vous avez des élections libres, transparentes, et malheureusement, chez nous, vous avez un clan qui veut coûte que coûte rester au pouvoir et se le partager. C'est ça qu'il faut regarder.
Pardon, Mokhtar, est-ce que vous pouvez répondre à ma question sur ce que je vous ai demandé pour qu'on écoute aussi M. Ghissali?
Absolument, je vous dis encore une fois que Aziz croit qu'il est au-dessus de la justice, qu'il a des passe-droits.
Est-ce que c'est pour cela qu'il a été placé en détention, puisqu'on explique qu'il n'a pas respecté, il ne s'est pas présenté 3 fois par semaine à la justice comme l'exigeaient les règles de sa résidence surveillée? Est-ce que pour vous aujourd'hui, en 2 mots, cela peut justifier son placement, sa mise en détention et son placement sous mandat de dépôt?
Vous savez que le procureur pouvait le mettre en prison à n'importe quel moment, du moment où il y a des faits, d'accusations graves, etc., et des risques qu'il quitte le pays. Il pouvait le mettre en prison à n'importe quel moment pour justement lui donner des faveurs, si je puis dire. Ils lui ont dit, monsieur le président, l'ancien président, vous devez venir 3 fois, je pense, par semaine, pointer au commissariat de police de la ville de Nouakchott. Et il ne respectait pas ses engagements. Et c'est pour cela que le procureur était fondé de l'envoyer en prison. Ça, merci. C'est sur les faits qui sont merci. Là. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette simple analyse qui est devant nous, et il faut voir le fond des choses, comme je le dis encore une fois.
Monsieur Ghissali, alors vous avez affirmé tout à l'heure que l'affaire est judiciaire, vous l'avez réitéré. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a aucune tension aujourd'hui entre l'ancien président Ould Abdelaziz et son successeur Al-Ghazouani?
Permettez-moi un peu de rétablir la vérité sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Le président Mohamed Ould Ghazouani a été élu par l'ensemble du peuple mauritanien de façon tout à fait claire, nette et précise au premier tour des élections. Le président Ghazouani a, lors de la campagne, effectivement décliné un programme qui embrasse un peu tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et du pays. Non seulement l'UPR et la majorité présidentielle l'ont soutenu, mais des pans importants de l'opposition et des personnalités de la société civile l'ont soutenu. Donc, de ce point de vue, M. Ghazouani est tout à fait légitime et il n'y a pas de lutte, comme ça, certains semblent le dire, à la tête du pouvoir. Il n'y a aucune lutte.
D'accord, il n'y a pas de lutte. Est-ce qu'il y a des tensions entre les deux hommes dont l'amitié, dont on connaît l'amitié, on connaissait l'amitié entre eux, une amitié qui date d'une quarantaine d'années. L'ancien président Ould Abdelaziz l'a d'ailleurs affirmé dans une interview. Quelles sont les relations qu'ils entretiennent aujourd'hui?
Je ne saurais vous dire les relations qu'ils entretiennent parce que je ne suis pas dans ne suis pas du tout un peu... Je ne fréquente pas l'ancien président, je ne sais pas les relations qu'ils en tiennent. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que les gens veulent, chaque fois on veut faire feu de tout bois, et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a une chose qui est claire. S'il n'y avait pas ce rapport d'enquête parlementaire, et s'il n'y avait pas ces faits qui sont reprochés à l'ancien président, il ne serait pas devant la justice. Donc, s'il est devant la justice, c'est vraiment pour répondre à un certain nombre d'accusations par rapport auxquelles il a été inculpé. Je pense que de ce point de vue, les choses doivent être claires.
Maintenant,
faire l'amalgame en disant, en personnalisant les choses. Au niveau de l'État, on ne personnalise pas les choses. Ce sont des institutions. Le président de la République est une personnalité constitutionnelle. D'état d'âme, d'amis, de ceci, c'est pas possible.
D'accord.
Il gouverne un pays, il a des objectifs.
Merci, monsieur Ghissali. Vous l'avez dit, il faut rendre justice, quelle que soit la personnalité qu'on a, parce que c'est la responsabilité du chef de l'État. Mais en quelques mots, est-ce que cette affaire judiciaire ne laisse pas des traces au sein de votre parti, l'UPR, auquel appartenait ou a appartenu Ould Abdelaziz, fondateur de ce parti?
Vous savez, nous considérons que tous les Mauritaniens sont présumés innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, je pense que aussi nous ne sommes pas étonnés quand il y a, étant donné que la justice est indépendante, quand il y a des choses qui sont reprochées à quelqu'un, qu'il puisse aller se défendre jusqu'à prouver son innocence ou bien que la justice puisse démontrer sa culpabilité. Donc, c'est tout à fait normal que dans la vie des nations, que certains puissent en m'a donné de
mais
leur
vie. Mais y a-t-il des conséquences pour votre parti, s'il vous plaît,
mais il n'y a aucune
mots.
Conséquence. Le parti est en train de dérouler son programme d'action. Nous avons été un peu bloqués avec le Covid parce que nous ne pouvions pas mener certaines activités. Mais Dieu merci, depuis quelque temps, le parti est en train de dérouler son plan d'action tout à fait, de façon tout à fait naturelle, en soutenant et en accompagnant la mise en œuvre du programme du président de la République tel merci. Que réalisé par le gouvernement.
Monsieur Ahmed, vous disiez tout à l'heure que vous souhaitez que monsieur, l'ancien président Ould Abdelaziz bénéficie d'un procès équitable. Est-ce que vous le dites parce que vous craignez qu'il n'en soit pas ainsi en cas de procès?
Non, justement, je voulais rectifier un peu votre, quand vous avez rebondi sur ma réponse, ma première réponse. Non, pas du tout. J'ai tout le respect pour notre justice. Je considère que jusqu'à présent, les choses ont été faites tout en respectant les règles de l'art. Monsieur Aziz n'a pas respecté les consignes qui ont été celles du procureur de la République. Il a enfreint il n'a pas respecté les règles de la liberté
la résidence surveillée.
La résidence surveillée doit traiter l'objet. Et c'est pour cela qu'il est aujourd'hui en prison. Non. Nous n'avons pas d'inquiétude, mais nous souhaitons, par principe, étant des démocrates, nous souhaitons toujours rappeler que, quelle que soit l'animosité qu'ont certains avec Ould Abdelaziz ou les problèmes qu'il peut avoir avec un tel ou un tel autre, nous, par principe, nous souhaitons qu'il soit vraiment dans son droit absolu. Cela ne veut pas dire que nous avons des doutes. Au contraire, nous avons confiance.
Vous faites confiance à la justice mauritanienne.
Ah, bien sûr, tout à fait. Et nous considérons aussi que ceci est tout à l'honneur de la Mauritanie. Si demain Ould Abdelaziz est acquitté, c'est tant mieux pour lui. S'il est condamné, cela fera un exemple. Et c'est cet exemple-là qui compte pour l'RFD. Nous souhaitons que notre pays ne puisse plus jamais revenir à de telles pratiques et que tous les présidents à venir soient conscients du fait qu'ils seront un jour ou l'autre devant un juge peut-être ou on leur demandera
qu'ils seront comptables de leur gestion.
Voilà, c'est ça qui compte pour nous en
merci.
Tant que démocrates.
Merci beaucoup. On marque une dernière pause, messieurs, et on va conclure notre débat dans quelques petites minutes. Restez avec nous.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Après l'arrestation la semaine dernière de l'ancien président mauritanien Ould Abdelaziz, faut-il s'attendre à un procès ou plutôt à un règlement politique de ce dossier judiciaire? Nous en parlons ce soir avec l'imam Ahmed, secrétaire général du RFD, parti d'opposition, Fall Ghissali, secrétaire général de l'UPR, parti au pouvoir en Mauritanie, et Mokhtar Gawad, journaliste et analyste basé à Washington. Alors, Mokhtar, vous aussi, vous êtes optimiste en cas de procès que celui-ci sera équitable au vu du traitement jusque-là de ce dossier judiciaire Ould Abdelaziz?
Liliane, je vais vous étonner, je pense qu'il n'y aura pas de procès, qu'il y aura une entente. On parle de médiation déjà en cours entre l'ancien président et son successeur. On peut parfaitement imaginer.
Médiation
que
par qui?
On parle de la médiation, par exemple, de la France. On parle de la médiation de certains groupes. Vous savez que la Mauritanie est un pays de tribus, des gens qui règlent leurs différends de façon concertée. Et je pense que Aziz pourrait parfaitement restituer les mannes qu'il est soupçonné d'avoir détournées. Les institutions bancaires internationales et les pays qui abritent les fonds et la richesse d'Aziz peuvent parfaitement les restituer. Donc, je pense que les deux hommes, ces compagnons de 40 ans dont vous rappeliez l'amitié tout à l'heure, trouveront un terrain d'entente dans le gâteau qu'ils se sont partagés et qu'ils continueront à se partager sur le dos des Mauritaniens est trop bon. C'est pour cela que je dis que pendant que l'on nous serve, si vous voulez, ce différend entre les deux hommes, pendant ce moment-là, les populations mauritaniennes souffrent le martyre, elles continuent à être victimes du même clan, de la même clique, des mêmes personnes qui applaudissaient hier Aziz et qui l'aidaient dans ses dérives et qui prétendent le poursuivre aujourd'hui et qui servent l'actuel président Razouani. Personne n'est dupe.
Merci beaucoup. Donc, Tagawad, vous mettez deux ados, hein, les deux dirigeants. Monsieur Falgui Sali, vous confirmez qu'il y a des médiations en cours en vue de règlement politique de ce dossier judiciaire?
Non, je ne suis pas au courant. Et je vais vous dire une chose. Franchement, moi, je ne suis pas de ceux qui s'évertuent à déchiffrer un peu les rêves d'un sourmier. Je pense que c'est aller trop vite en besogne que de parler d'entente, parce qu'il ne peut pas y avoir d'entente.
Est-ce qu'on évoque une restitution possible des fonds ou d'une partie des fonds présumés détournés par Monsieur Abdelaziz?
Vous savez, nous avons une justice, elle est indépendante. Nous avons pu prouver que notre Parlement était indépendant, c'était un pouvoir indépendant qui a fait son travail. Aujourd'hui, le dossier est entre les mains de la justice.
Donc ce n'est pas à l'ordre du jour, même si le président proposait peut-être ou des médiations supposées proposaient de restituer une partie de ces fonds présumés détournés, vous seriez contre?
Ce qui est certain, c'est que la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques est un axe fondamental, majeur, important dans le programme de son Excellence, M. le Président de la République, Mohamed Youssef Razouani.
Merci. Monsieur Ahmed, est-ce que ce que vient de souligner Monsieur Gawad vous inquiète-t-il, une possible solution politique et peut-être une possible restitution aussi des fonds qui pourraient finalement permettre la non-tenue d'un procès?
Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Les deux protagonistes, je ne les connais pas personnellement. Cela m'étonnerait quand même qu'à ce niveau, après tous ces développements, qu'il y ait une entente ou qu'il y ait une médiation. Je rappelle ici que le gouvernement mauritanien a pris langue avec un groupe d'avocats de très haut niveau, dirigé notamment par l'actuel bâtonnier de l'Ordre des avocats, et qui ont été, donc le gouvernement a demandé les services pour justement filer et essayer de retrouver les traces des biens qui ont été détournés durant les 10 années du règne de M. Aziz. Donc, moi, je crois qu'on va, au contraire, qu'on va vers un procès que je souhaite vivement pour la Mauritanie, pour l'avenir de ce pays. Mais je voudrais également ici, quand même, élargir un peu l'horizon. Je voudrais dire que arrêter un ancien président de la République, faire une enquête parlementaire, transférer ce dossier à la justice, tout cela est trop bon. Mais cela doit aussi s'inscrire dans un programme beaucoup plus large. Il faudrait que la Mauritanie, que le pays soit reformé de fond en comble. La justice doit être reformée, les institutions de l'État doivent l'être. Il faudrait que l'on règle aussi les problèmes liés à la transparence dans les élections. Je pense qu'il y a beaucoup de chantiers auxquels on doit s'attaquer. L'opposition est prête à donner de la main pour que le pays soit reformé, pour que des choses, des grands chantiers soient lancés. Et Aziz, le cas d'Aziz doit juste être un exemple dans l'impunité. C'est tout. Il ne faut pas en faire une affaire, l'affaire du siècle. C'est quelqu'un qui a dirigé le pays. Il a, paraît-il, fait beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup de mauvaises gestions.
Et justement, certains se demandent pourquoi seulement lui et pas d'autres qui ont précédé Abdelaziz.
Je crois que c'est aussi le choix de l'actuel gouvernement, de l'actuel président de la République. Je pense que c'est une volonté politique qui est là. Je la salue parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Il ne faut pas accélérer. Il y a eu beaucoup, effectivement, depuis le coup d'État de 1978, Nous n'avons connu que des gouvernements, que des régimes d'exception, à part peut-être l'élection de feu Sidi Cheikh Abdallahi. Et l'actuel président, qui est lui aussi issu de l'armée, a voulu faire cet exemple. Il a eu cette volonté politique. Il faut l'encourager. À l'opposition, nous avons soutenu la commission d'enquête dont nous étions membres. Et nous avons d'ailleurs, comme l'a dit M. Falunguissali, nous avons été des initiateurs de cette commission d'enquête.
Merci beaucoup, M. Ahmed. Merci beaucoup. Le temps imparti est terminé. Secrétaire général du RFD, parti d'opposition, merci à l'analyste et journaliste Mokhta Gawad, promoteur du site Vue sur l'Amérique. Et merci à Falunguissali, secrétaire général de l'UPR, parti au pouvoir en Mauritanie, d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.